Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazaroute, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. De notre émission Empreinte, consacrée, comme vous le savez, à la littérature. Amis auditeurs, nous recevons aujourd'hui l'autrice Sari El-Bahja. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Tazaroute, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'être invité.
Le plaisir est partagé de vous recevoir donc pour la deuxième fois. C'est un plaisir, vous nous revenez avec un roman, donc c'est votre troisième roman. Et qui s'intitule « Les amours d'automne sont les plus doux ». Les plus doux. Donc, votre troisième roman. Mais avant de parler de ce troisième roman, j'aimerais bien qu'on revienne sur les deux premiers. Donc, le premier, c'est « Le Pantin rêveur
oui, »,
édité chez Delimen.
Chez Delimen, oui.
On va en parler de quoi, donc, après, de quoi il s'agit. Et le deuxième, c'est le... Il y a eu beaucoup d'écho, beaucoup de succès, c'est Destin inversé. Bien, mais avant de parler de tout ça, pour ceux qui aimeraient connaître votre parcours, vous êtes médecin, donc de formation,
oui. Oui.
Actuellement à la retraite.
Actuellement à la retraite, je me suis réinvesti
dans l'écriture,
parce qu'à un moment de ma vie, il y a eu un vide, et j'ai eu besoin de combler ce vide par l'écriture. Et puis en même temps... extirper la souffrance que j'avais en moi à la suite du décès de mon mari.
Donc, écriture comme thérapie?
Oui, absolument. C'est excellent, d'ailleurs. Et j'invite tous les gens qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à dire certaines choses, d'écrire, de le mettre sur du papier, ça soulage.
Ça
apaise énormément.
Ça apaise du trauma que
absolument.
Qu'on peut avoir au cours absolument. D'une vie.
Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à confier à l'autre. Donc on le confie plus facilement à une feuille de papier.
Même si on sait après que cette feuille de papier, dès qu'elle est donc ramassée, éditée, elle s'adresse à des milliers, si ce n'est des millions de personnes.
Oui.
C'est une mise à nu, en plus de la thérapie.
Oui. Oui, absolument, parce que les aléas de la vie font qu'on est face à des épreuves qu'il faut absolument surmonter.
Ouais.
Et bon, ça retentit un petit peu sur notre tempérament, sur notre comportement. Donc je pense que l'écriture a ce bon côté, un petit peu de nous sortir de là.
Oui, mais cette histoire d'écriture, vous n'êtes pas spontanément... découvert cet amour d'écriture, oui. Vous l'aviez certainement depuis...
Oui, je l'avais au moment de l'adolescence, quand il fallait écrire des petits romans d'amour à 16-17 ans. Puis après, je l'ai perdu. Les études sont lourdes, sont longues.
Oui, bien sûr.
Après, je me suis installée en cabinet. Ça m'a absolument...
Ça a pris tout votre temps.
Ça a pris tout mon temps. Et puis là, à un moment donné de ma vie, je suis pas une femme d'écriture, pas du tout. Hein. Je n'ai jamais écrit... À part ce que j'ai pu écrire, les petites bêtises que j'ai pu écrire à l'adolescence, je ne suis pas une femme d'écriture. Et là, je me suis découverte.
C'est la lecture ?
La lecture, la peinture.
La peinture et la lecture.
Voilà, je peins aussi. Donc tout ça, c'est une forme d'évasion. Mais l'écriture m'a apporté beaucoup plus d'apaisement.
Et comment vous vous êtes retrouvée en train d'écrire ?
Un beau matin.
Comment est né ce projet d'écriture ?
Oui, oui. Un beau matin, j'ai éprouvé le besoin de... J'étais face à moi-même et j'ai décidé de prendre un crayon. Et puis c'est venu tout seul. Et de là, j'ai écrit le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre. Et il y en a quatre qui sont en sommeil.
Quatre en sommeil.
Quatre en sommeil dans un tiroir. Voilà.
Ah, très bien. Alors, cette aventure a commencé en quelle année ?
L'aventure de l'écriture ?
Oui.
Ça a commencé pendant le Covid.
2019. Donc le premier, c'est Le Pantin, c'est en quelle année chez Delimen ?
Il a été édité en 2021.
Et le deuxième en 2000...
La 23. 23, oui, le deuxième, oui, en 23. Et celui-là, donc en...
2024,
25.
Bon, on commence par le premier, Pantin rêveur.
Oui,
Un drôle de titre quand même.
Le Pantin rêveur, parce que c'est une histoire authentique que j'ai rapportée. Une histoire qui m'a fait beaucoup de peine. Que j'ai...
Oui. Pourquoi ce titre, le Pantin rêveur ? Un pantin, c'est un... C'est quelqu'un...
Voilà, parce que cette jeune fille a été leurrée par un garçon, une jeune fille...
Une adolescente,
qui a été leurrée par un garçon qui lui a promis monts et merveilles. Et en fin de compte, c'était quelqu'un qui... Un escroc, un pervers. Et qui l'avait donc séquestré.
Et carrément.
Qu'il l'avait séquestré et qu'il l'avait violé. Et elle disait qu'elle s'était retrouvée comme un... À la fin, comme un pantin. Elle n'arrivait plus à se mettre...
C'est elle qui...
Oui, qui était le pantin. D'accord. Elle n'arrivait plus à se mettre debout, elle avait mal, elle pleurait, elle se demandait où elle était, elle voulait repartir chez elle. Mais ce pantin s'est reconstruit avec le temps. S'est reconstruit, avait des rêves, voulait faire des choses de sa vie. Et c'est comme ça que... On a donné ce nom de pantin.
Pantin rêveur.
C'était un pantin à
l'origine. C'est quand même une histoire dramatique, ça.
C'est une histoire dramatique. C'est un pantin qui s'est quand même... qui ne s'est pas laissé aller, qui s'est reconstruit à la force des bras, à la force de...
Seul.
Ou
avec l'aide de quelqu'un.
Seul.
Votre héroïne a quel âge? Au début de l'histoire?
15-16 ans.
Elle était quoi? Elle était collégienne, elle était lycéenne?
Elle était fille au foyer, elle aidait sa maman. Oui.
Donc de famille modeste?
Modeste.
Si ce n'est pas pauvre?
À l'est du pays, modeste.
Citadine ou rurale?
Elle était rurale, mais à cause d'un frère qui avait de l'asthme et qui avait besoin de soins, ils ont déménagé en ville. Ouais. Ils ont pris une petite maison en ville.
À l'ouest du pays?
Non, à l'est.
À l'est du pays. Mm-hmm. À l'est du pays.
Batna.
Batna. Et donc, et son violeur, on va l'appeler comme ça.
Oui.
Il est plus âgé, il travaille.
Il travaillait et il lui avait dit qu'il voulait aller en ville pour faire d'autres études. Parce qu'il était dans une usine de crayons à billes. Donc ça commençait à le lasser, ça correspondait pas à ses ambitions. Donc il voulait aller dans la capitale, Alger, pour faire des études et essayer d'avancer dans son travail. Et il lui a proposé, et elle était toute jeune, naïve, contente, puis elle était amoureuse, ce jeune. Sans cela, vous était amoureuse de lui. Et il lui dit, bon, tu peux venir avec moi, d'autant plus que je vais être logée chez une tante qui est sans enfant, qui vit seule et qui sera très contente de te recevoir en même temps que moi. Mm-hmm. Et c'est là que la catastrophe commence. Parce que la tante, en fait, c'est une entremetteuse.
Carrément. Et l'héroïne, le pantin, elle a un prénom.
Oui, elle a un prénom.
Dans le roman, on va lui donner un prénom. Mais est-ce qu'elle a eu facilement l'autorisation de sa mère? Est-ce qu'elle l'a eu? Est-ce qu'elle a défié l'autorité de la maman?
Elle a défié l'autorité des parents.
Oui. Et la maman, c'est tout.
Oui.
Ouais.
Oui.
Elle est orpheline de père.
Oui.
Ouais. Donc elle s'est retrouvée dans la galère, en pleine galère à Alger.
En pleine galère.
Alors qu'elle...
Tout était nouveau. Elle voulait faire des études de coiffure. Elle avait trouvé une adresse, donc elle avait ramené l'adresse avec elle. Elle l'avait montré au garçon en lui disant tu, quand j'arriverai, tu m'emmènerais dans ce centre de formation.
De formation, oui.
Et lui avait acquiescé en disant pas de problème, on sera bien.
Ça se règle.
Ça se règle, c'est pas un problème. Et arrivé chez la dame, qui l'avait dit que c'était sa tante, n'était pas du tout sa tante.
C'est pratiquement un réseau.
C'était un réseau. Elle est prise en main par lui et par la tante. Et là, c'est la catastrophe.
Elle est prisonnière.
C'est la descente aux enfers pour elle.
C'est vraiment la descente aux
enfers.
Ce type d'histoire, vous les avez récoltées quelque part
C'est-à-dire que dans ma longue carrière de médecin de campagne,
oui.
Parce que j'ai été d'abord médecin de campagne, où j'ai eu une vie absolument magnifique. D'abord, c'était rédhibitoire pour moi d'aller d'Alger m'installer dans une campagne dans la Cambrousse. Mais en fin de compte, j'ai apprécié ce séjour qui a été magnifique, enrichissant du point de vue de professionnel et humain surtout.
Humain, sur le plan humain.
Voilà. Sur le plan humain, j'ai rencontré
des parcours,
des tas de gens intéressants, authentiques, auxquels je me suis attachée. Auxquels je me suis attachée. Parmi ces gens-là, cette histoire qui est cette femme qui est venue, qui m'a raconté son histoire.
Se libérer. Elle est venue voir pour se libérer.
Pour se libérer.
Ce fardeau.
Voilà, parce qu'un médecin, ça a des oreilles. Ça a une sensibilité.
Ouais. Et ça a de l'écoute.
Voilà, et ça a de l'écoute. Et c'est ce qu'elle recherchait.
Très bien. Donc il y a de l'espoir quand même dans cette triste
histoire.
Oui, il y a
de l'espoir. Il y a de l'espoir.
C'est cette femme qui... Ce qui est étonnant, c'est qu'elle décide de se reprendre en main, de reprendre les choses, toute seule. Miraculeux, quoi.
Oui.
Et comment elle y parvient?
Elle y parvient parce qu'elle connaît, elle se marie, elle connaît quelqu'un qui veut bien l'épouser, elle a des enfants, elle s'occupe de femmes analphabètes. Donc,
carrément.
Oui.
Donc, après avoir...
Il y a eu une rédemption et...
Et en plus, elle s'occupe après des personnes... Ouais. C'est quand même un parcours fabuleux.
Magnifique.
Ouais,
Digne d'intérêt.
Ah ben, merci de l'avoir mis noir sur blanc, donc... Et d'avoir raconté au lecteur cette histoire.
Oui.
À travers votre livre, je rappelle, Le Pantin Rêveur, édité chez Delimen, donc aux éditions Delimen, en 2021. Le deuxième, donc, qui a eu plus d'écho, c'est Destin Inversé. Destin Inversé, c'est 2023, aux éditions Al-Qobiya. Ça aussi, c'est...
C'est une histoire vraie aussi.
C'est aussi une histoire vraie.
Les histoires que j'ai pu rencontrer m'ont tellement touchée qu'elles sont encore gravées. Longtemps après ma cessation de travail, ce sont des histoires qui me sont restées gravées dans la tête. Parce qu'incroyable.
Oui.
Incroyable.
Là aussi, ça commence par un drame.
Oui.
Votre héroïne, elle est beaucoup plus jeune, donc elle a 13 ans.
Oui. Elle a 13 ans.
Quand elle a été abusée. Donc,
abusée par quatre hommes.
Quatre hommes, viol. Et au moment où elle avait besoin du réconfort ou du soutien de la famille.
Parental
et par toute la famille, donc du père et de la mère surtout.
Elle se retrouve
carrément.
Absolument exclue.
Mis dehors.
Mise à la porte,
excommuniée, reniée.
Reniée complètement.
Elle se retrouve donc dans la nature à cet âge-là. En plus, elle vient aussi d'un monde rural.
Un monde rural.
Et elle se retrouve dans la jungle d'une grande ville qui est Alger.
Voilà. Alors, c'est une fille qui a grandi à Médéa, dans une famille aimante. Un papa qui travaillait chez quelqu'un dans une ferme où il s'occupait de pommiers et qui ramenait chaque soir des pommes dans son petit panier que la maman leur donnait en goûter, en faisait confiture pour l'hiver. Bon, après, il perd son travail parce que le fermier décide de partir et de renvoyer tout son personnel, tous les ouvriers. Il travaille dans un café mort, et il gagne difficilement sa vie. Mais c'est une famille qui est aimante, soudée, ils sont heureux.
Ces conditions-là n'excusent pas son geste vis-à-vis de ça.
Oui, absolument.
Comportement.
Mais il avait un sens de l'honneur très développé et de la famille.
Oui.
C'est ça qui l'a incité à la renvoyer. Mais c'est pas une raison. Elle avait 13 ans. Elle venait d'être pubère. On renvoie pas une fille comme ça dans la nature.
Qui est en plus victime. C'est pas la
victime.
Chercher.
Oui.
C'est une victime. Bien. Donc, c'est ça, votre deuxième parcours que vous mettez, drame que vous mettez, donc, noir sur blanc, donc, dans un ouvrage, votre deuxième. Au titre révélateur, Destin inversé, c'est aux éditions Al-Qobiya. Votre troisième roman, celui donc qui nous a permis, que nous permet de vous inviter, c'est donc Les amours d'automne sont les plus doux. C'est toujours aux éditions Al-Koubia. Donc, amis auditeurs, nous sommes toujours avec Saril Bahja et nous allons parler enfin de son troisième roman. Les amours d'automne sont les plus doux. Donc, c'est un titre qui fait rêver. On est dans la douceur de...
Oui, ça ressemblerait à un roman d'amour.
Les amours, donc ça.
Oui, ça ressemblerait à un roman d'amour, alors que c'est loin d'être tout ça. C'est un roman qui est sombre, émouvant.
C'est un roman de la vie, on va dire.
Un roman de la vie, voilà. Oui.
Et la vie, il y a des hauts et des bas.
Oui, oui. Mais le fait de dire amour d'automne, on a l'impression que c'est quelque chose de léger et ça paraît rédhibitoire pour certains lecteurs.
Moi, je connais amour d'été qui est plus léger que l'amour d'automne.
Oui, parce que là,
Même celui d'automne est léger. C'est l'amour d'automne, sur les... Quand vous dites, on a l'impression que vous allez nous raconter une belle romance.
Oui, toute rose. Bien, tout...
Oui.
Oui.
La réalité est autre, mais vous nous donnez déjà un petit avertissement. Parce que quand on ouvre votre livre, il y a une citation que vous mettez en exergue d'Alfred de Musset, c'est « La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. » Vous avez déjà éclairé le lecteur.
Oui.
C'est un avertissement, ça, oui. Vous dites. Ben, « La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion. »
Absolument.
Ça donne une illusion. On est dans l'illusion. Oui. Certains amours offrent l'illusion.
Oui.
Du parfait, d'une symbiose.
Voilà. Au départ.
D'un bien-être, au départ. Et vous rappelez, chaque épine est une réalité.
C'est que tout ce qui était...
Il y a dans la rose, il y a effectivement des épines.
Voilà, c'est ça. Et c'est mon héroïne va connaître tout ça, va connaître le bonheur. Et ensuite, les épines.
Et votre épine a un doux prénom. C'est
oui.
Mélissa.
Mélissa, oui.
Et vous écrivez donc Mélissa qui a été chantée par...
Par Julien Clerc. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais oui.
Oui, mais on comprend.
Oui, oui,
celui
voilà.
On comprend. C'est une fille de nature un peu rêveuse. Même poétesse, elle est même poétesse. À ses heures.
Donc, oui, elle est heureuse de vivre. Ses parents sont un couple pratiquement fusionnel qu'elle admire. Tout va bien pour elle.
Tout va bien, surtout qu'elle a eu une enfance et une adolescence qu'elle a vécu dans l'insouciance la plus totale.
Absolument.
Couvée par des parents.
Oui, fille unique.
Fille unique, couvée par ses parents, c'est pour elle, c'est des moments irremplaçables.
Absolument.
Elle dit, vous l'écrivez, je suis le fruit d'une histoire d'amour, d'une belle histoire d'amour, une rencontre entre deux êtres que rien ne destinait à croiser. Un certain mars 1955.
Oui.
Elle part de ses parents.
Oui.
Des destins donc opposés que rien ne destinait à une rencontre.
Absolument. Le papa est ingénieur. Il vient de l'Est. La maman est psychologue. Elle vient de l'Ouest. Le papa, la maman, bon, elle n'a pas trouvé de travail dans son domaine parce qu'elle a fait anglais. Elle a fait psycho. Elle a trouvé de travail dans l'Oranie. Elle vient sur Alger où elle fait une demande dans un centre pour enfants handicapés. Elle est acceptée, vu sa formation de psychologue, elle est acceptée. Elle est directrice de ce centre.
Elle finit par être directrice.
Et le papa, qui est un ingénieur, vient de l'Est, en mission, dans son centre, pour électrifier le centre.
C'est vraiment le hasard.
C'est vraiment fortuit comme rencontre.
Oui, c'est...
Voilà,
le hasard qui a bien fait les choses.
Voilà, absolument.
Donc, qui a électrifié deux êtres.
Voilà, absolument, oui, c'est vrai, oui. Donc, c'est vrai.
Mais ma question, c'est la date. C'est 1955, deux Algériens.
Oui.
Une psychologue et un ingénieur, c'est quand même rare.
Oui.
Pourquoi vous les avez voulu ainsi avec donc
Mon inspiration, c'était pour dérouler l'histoire après et qu'il fasse enchaîner.
Oui, mais ce que je veux dire, dans le contexte colonial...
Mais il y avait quand même des intellectuels.
Oui, je n'y pas.
Moi, j'ai fait mes études pendant la période coloniale, donc il y avait des gens comme moi.
Entre faire des études et être donc chef responsable, ingénieur responsable d'une entreprise... Être directrice du centre...
Oui, c'était dans le domaine du possible.
C'est dans le domaine du possible.
C'est absolument dans le domaine
du possible.
Et comme
on est dans la fiction, c'est le domaine aussi de la fiction. Mm. Donc on est en mi-chemin entre la réalité et la fiction, où tout est possible. Ce n'est pas ça le plus important. On n'oublie pas qu'on est dans une romance qui est contée par votre héroïne, Mélissa. Cette Mélissa, qu'est-ce qu'elle... Elle est un peu effacée au début de votre roman. Elle subit les choses, elle est un peu effacée, contrairement à son amie.
Oui, son amie Yasmine
qui est beaucoup plus...
Voilà, qui est beaucoup plus épanouie parce qu'elle fait de la peinture, alors qu'elle a perdu son papa, elle est orpheline.
C'est ça, oui.
Elle est orpheline, elle vit seule avec sa maman, sur le même palier que Mélissa et sa famille.
Oui, c'est ça, ils vivent...
Sur le même palier.
Ouais. Sa mère s'appelle Sohan.
Oui.
Donc elle est... Vous dites que la maman est fragile.
Non.
Uniquement en apparence.
Uniquement en apparence.
En apparence.
Mais c'est une battante.
C'est une battante, c'est une fougueuse.
La preuve,
elle dirige
un centre
qui n'est pas facile à diriger parce qu'il s'agit...
De malentendants, donc
d'handicapés. Et elle épouse, elle est plutôt éprise de liberté.
Oui.
Donc c'est une femme de caractère.
De caractère.
Elle est en plus diplômée en psychologie, donc elle a tout pour, on va dire, pour séduire.
Oui, c'est une femme forte, qui sait ce qu'elle veut.
Oui, c'est ça.
Qui a beaucoup voyagé.
Elle a beaucoup de qualités autres que physiques, on va dire.
Beaucoup voyagé, qui est sportive.
Alors, elle aime voyager comme l'ingénieur. Qu'elle a connu, voyager. Et là, ils font un rêve incroyable, ils font un voyage incroyable. C'est la visite du Kilimandjaro.
L'ascension du Kilimandjaro. Et ce qui est une expérience magnifique. Elle est unique malgré les...
Moi, j'ai du mal à croire à tout ça.
Oui.
Ouais.
Ça peut se faire, ça aussi.
On replace toujours dans le contexte, donc... De l'année 56.
Oui. Mais c'était du possible.
Vous l'assumez.
Dans le domaine du possible.
Dans le domaine du possible. C'est bien. On y est. Puisqu'on est dans le rêve, dans la fiction.
Voilà.
Pourquoi pas. Donc on y est. Et donc, c'est là-bas que tout se décide.
Tout se joue
entre Souad.
Oui.
Et l'ingénieur. On n'a pas de prénom pour l'ingénieur.
Elle a failli tomber. Il la rattrape et c'est là que se fait le
coup de foudre.
Le coup de foudre.
C'est là qu'a eu lieu le coup de foudre.
Voilà.
Oui. Donc, on voyage pour le coup de foudre et la naissance de Mélissa a vraiment lié le...
A scellé le couple. Leur vie est un petit peu déstabilisée parce que ça les freine.
Autant ils étaient contents, autant...
Voilà, oui.
Leur mouvement est un peu restreint.
Restreint parce qu'ils ne peuvent plus bouger avec les responsabilités parentales qu'ils ont.
Pardon ?
Avec leurs nouvelles responsabilités, ils ne peuvent plus bouger comme ils voulaient.
Et donc la petite Mélissa se retrouve, donc, quand elle, comme c'est donc enfant, à fréquenter l'école que dirige la maman.
Elle fait des apparitions les week-ends,
vacances. De temps en temps, elle est là-bas. Elle apprend même le langage des signes.
Pour être plus à même de jouer, d'aborder les enfants qui sont là-bas. Et c'est là qu'elle a une amitié toute particulière pour
le jeune Aïssa.
Le jeune Aïssa, qui est un garçon de Timimoun, défavorisé, et qui n'entend pas, qui ne parle pas. Donc,
malentendre.
Oui. Donc,
elle est belle, cette histoire avec Aïssa.
Oui, oui.
Bon, au début, je croyais que c'était ça, l'histoire d'amour.
Non, pas du tout. C'était son frère.
On a l'impression, vous laissez quand même du suspense.
Oui.
On a l'impression qu'il va y avoir quelque chose entre Mélissa.
Oui.
Et...
parce qu'il s'aime beaucoup.
Il lui dit je t'aime. En langage de signes.
Oui, en langage de signes, oui. C'est son frère de cœur.
Ça aurait été une piste possible aussi. Pour la romancière que vous êtes.
Oui, aurait pu, mais. Ouais. C'était son frère de cœur. Comme Yasmine. Était sa sœur de cœur.
Oui, elle le retrouve après, des années après.
Elle le retrouve des années après, alors qu'il est bien assis, que parce que sa mère a lutté, la maman Souad a lutté pour le faire appareiller, pour lui donner des cours chez l'orthophoniste. Il s'en est très bien sorti. Elle lui a trouvé
Voilà,
il a trouvé un stage chez elle. Elle lui a la place chez un électricien et il s'en est bien sorti. Et entre temps.
Il a eu une vie confortable.
Voilà, il a une vie confortable. Et entre-temps, la maman est tombée malade, elle est morte, et il se revoit. Il la revoit des années. Aïssa revoit Mélissa des années après pour lui présenter ses condoléances.
Il se retrouve parce qu'elle est étonnée de le revoir. Surtout qu'il était accompagné d'une belle
d'une jeune fille.
D'une jeune fille,
qui était aussi blanche que lui était bronzée.
C'est pour ça que j'ai dit que vous faites durer un peu le suspense, parce qu'on a l'impression, quand vous le... vous en parlez, qu'elle était un peu contrariée, était un peu déçue.
Oui.
Elle qui n'avait, alors là, qui avait une vie de sainte.
Oui.
C'est-à-dire, même adolescente, elle n'avait pas de son amoureux.
Non. C'était une fille très saine.
Oui.
Qui faisait de la musique.
Ça donnait au piano, donc.
Qui s'adonnait au piano et à ses études. Oui.
Ce qui n'a rien à voir avec sa copine.
Oui. Oui.
Son amie.
Oui.
Un beau jour, quand même, l'amour va frapper à sa porte.
Oui.
L'amour de sa vie.
L'amour de sa vie.
Quand elle a perdu espoir, il se présente.
Il se présente.
Mais il ne se présente pas en ville. Il fallait aller le chercher. C'est pour elle aussi, c'est le fruit du hasard.
Sur un chemin caillouteux, un chemin de campagne.
Il fallait d'abord aller jusqu'à Tiaret,
chez ses grands-parents. Chez la tante, la sœur.
Ah, d'abord, c'est la
sœur de la maman.
De la maman, oui.
Et elle rencontre.
Et c'est là qu'elle rencontre.
Elle rencontre. Au début, c'est pas facile, parce que c'est quand même un garçon qui est difficile à cerner, qui se montre sous un qui est plutôt
rebelle,
et puis après tout se dénoue avec le temps, tout se dénoue.
Alors Mélissa qui se retrouve donc à Tiaret et qui redécouvre, on a l'impression que vous la faites découvrir, lui faites découvrir la vie, ce qu'est la vie, ce qu'est la nature, ce qu'est l'hospitalité, ce qu'est les gens de l'intérieur,
ce qu'elle connaissait
leur gentillesse, elle connaissait pas.
Ce qu'elle connaissait et pour lesquels elle avait un a priori.
Oui.
Elle les découvrait dans tout ce qu'ils avaient de beau, d'authentique. Hein, c'est une population qui est digne d'intérêt et qui a besoin aussi qu'on l'écoute.
Donc c'est elle fait ce voyage au moment où elle a déjà décroché son baccalauréat, qu'elle
est pharmacienne déjà.
Fait des études et qu'elle est pharmacienne, donc en attendant qu'elle exerce, donc elle se permet. Une pause chez donc
une bouffée d'oxygène chez sa tante.
Oui. Il y a cette rencontre, il y a la découverte de personnages succulents comme Zuina.
Zuina, une petite dame qu'elle voit un jour devant sa cabane, assise avec
vivant seule
avec des chats à ses pieds. Elle la regarde une première fois, la dame... la regarde, elle lui sourit, et Mélissa se dit, j'aimerais bien la connaître un peu plus. Elle revient le lendemain, cette vieille dame l'accueille. C'est une vieille dame qui est magnifique, qui est résiliente, qui a eu une vie aussi, une vie qui n'a pas été facile aussi.
Qui n'a pas du tout été facile.
Qui n'a pas du tout été facile, et qui lui raconte, qui se lie entre elles, elles sont liées par une certaine affection. Elle l'accompagne pour aller au mausolée de Sidim Barak, où elle découvre elle aussi quelque chose de nouveau. Elle ne connaissait pas tout ça.
Elle ne connaissait pas, la vie de... les saints, les mausolées.
Voilà, oui.
Mais c'est là qu'il y a eu cette rencontre avec... D'abord ce regard.
Oui.
D'un beau jeune homme.
Oui, en revenant justement de chez Zuina, sur la route.
Oui.
Alors qu'elle allait chez sa tante, elle a été, on lui a emboîté le pas, elle s'est retournée, c'était un jeune homme.
C'est un jeune homme qui répond au prénom de...
De Mahdi, lui aussi.
De Mahdi.
De Mahdi.
Le début est difficile, il est même compliqué.
C'est oui.
L'impression que c'était plutôt elle qui était...
Oui.
Qui était attirée par ce
elle
jeune
était,
homme.
Elle était assoiffée d'affection,
oui.
de reconnaissance, plus de maman, plus de soutien. Donc elle recherchait l'affection.
Donc on rappelle à nos amis auditeurs, elle a entrepris ce voyage au moment où elle venait de perdre sa maman, donc malade, atteinte d'un cancer. C'est ça.
Oui, parce que c'était une grosse fumage.
Oui. Et au moment aussi, elle s'aperçoit que Lila, la meilleure amie de sa maman, hein, commence à avoir de l'ascendant sur son père.
Oui.
Et là, pour elle, c'est un choc.
C'est un choc.
C'est un moment fort de votre livre. C'est vraiment un moment fort.
Parce qu'il lui restait que son père, et elle voit que son père, maintenant, est obligé de le partager avec quelqu'un d'autre. Surtout avec la meilleure amie de sa maman.
Il n'y a pas uniquement le fait du partage, il y a le fait aussi d'une trahison.
Trahison, elle se sent trahie,
Elle s'est sentie trahie.
Elle s'est sentie trahie par ce père qu'elle voyait sous un autre jour, un mari aimant qui entourait sa femme de beaucoup d'affection et tout. Or...
Il s'est avéré,
mais un papa qui était quand même séducteur, hein, qui était beau, qui était élégant, dont elle était fière. Donc c'est une grosse déception. Mais la liaison s'était faite en douce du vivant de la maman. Et la maman était presque heureuse puisqu'elle se savait partante.
Vous ne le dites pas dans le livre.
Si. La maman était presque heureuse de laisser son mari, l'être qu'elle aimait le plus au monde.
Vous le sous-entendez.
Voilà, oui. Elle voyait l'histoire d'amour.
C'est pour que les lecteurs, les auditeurs comprennent, c'est vraiment au moment où il n'y avait plus d'espoir. À ce moment-là, qu'elle, comme toute femme aimant, elle aurait souhaité qu'il retrouve... Une autre stabilité avec une autre femme.
Voilà.
Il se trouve que ce soit Lila, une divorcée, qui est son amie.
Oui.
Mais pour la Mélissa, c'était perçu différemment.
C'était terrible. C'était pas le moment.
Voilà, c'était pas le moment. Elle retrouve refuge donc chez sa tante.
Oui, à une kermesse.
Oui.
Elle a besoin d'une bouffée d'air, elle ne sait pas où aller, elle a envie de partir, mais elle ne sait pas où aller. C'est à ce moment que sa tante lui téléphone, il lui dit, est-ce que tu pourrais pas venir, si tu veux venir quelque temps chez moi, viens, ça te fera du bien. C'est là que, sans réfléchir, elle prend sa valise, elle prend l'avion et un taxi, elle arrive chez sa tante.
Oui, c'était donc l'été de ses 20 ans.
Mm.
Et là, elle découvre l'amour. Elle découvre Mahdi, ce jeune homme un peu spécial quand même. Il est un peu différent des autres.
Oui, qui a fait architecture.
Mais qui s'occupe des affaires, qui s'occupe d'agriculture, des affaires de son père décédé.
Non, son père qui est tombé d'un mur, en grimpant pour aller.
Donc, et tout se passe bien. Il y a une attirance,
mais
lui, il reste énigmatique.
Voilà, elle sait pas ce qu'il veut, elle n'arrive pas à le cerner, c'est quelqu'un qui aime sa liberté avant tout, et c'est un électron libre, sa liberté avant tout, il n'a pas besoin des autres, il a besoin que de son bétail, de ses champs, de ses récoltes, complètement investi dans le travail.
Mais bon, on va connaître après la belle histoire d'amour qui commence toujours par un voyage, hein, comme c'était le cas pour ses parents,
oui.
Mais par une rencontre, mais qui se fera donc à Alger.
Oui.
Parce qu'il est venu, donc... Mahdi est venu à Alger pour régler des petits soucis administratifs.
Oui.
Il revoit, on va dire 3 ans après.
Oui,
il revoit,
au fur et à mesure.
Par petites touches, il revoit. Il a l'occasion de revoir Mélissa.
Oui.
Sauf qu'entre-temps, Mélissa a donc travaillé dans une entreprise de pharmacie.
Oui, de parapharmacie.
De pharmacie et de parapharmacie, oui. Et elle, il y a parmi ses collègues quelqu'un qui voulait à tout prix, donc,
oui.
Enfin, qui a été très sympathique, très gentil avec elle, oui. Qui l'invitait souvent et dont elle refusait pas, bien sûr,
oui.
Les invitations et sa présence.
Oui.
Et qui, au contraire, a trouvé chez ce jeune homme de bonne famille, au contraire, un réconfort.
Oui, Reda, qui était quelqu'un de charmant, très proche d'elle, qui l'a accompagnée chaque soir à la maison, qui la sortait, qui lui offrait des fleurs, qui n'oubliait pas ses anniversaires. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient attachantes pour elle.
Qui étaient touchantes.
Qui étaient les attentions auxquelles elle avait fait attention, quand même, c'était. Mais son esprit, si ses pieds étaient à Alger, plutôt.
Son corps était à Alger.
Voilà,
son cœur était à Tiaret.
Oui.
Oui, mais dans votre livre, elle était hésitante à ce moment. Elle ne savait pas. Elle penchait d'un côté comme de l'autre. Elle a un vide qu'il fallait qu'elle comble. Elle le comble avec.
Reda.
Avec Reda. Et. On devine bien qu'elle se dit, on la voit presque se dire, pourquoi pas Reda? Pourquoi
oui,
pas?
Oui, parce qu'elle.
Parce qu'elle le lâche pas.
Oui, elle le lâche pas.
Parce elle lui donne l'espoir.
Voilà. Elle se dit, c'est quand même un garçon qui a de bonnes intentions. Parce qu'il y a pas, il y a déjà dit qu'il voulait, créer une famille, qu'il voulait avoir des enfants, un foyer stable. Donc, elle hésitait. Entre ce garçon qui avait de bonnes intentions, qui avait un projet matrimonial valable, visible et certain, et ce garçon qui était à 400 kilomètres, qui ne donnait pas de nouvelles, alors qu'elle lui avait donné son numéro de téléphone quand elle était partie, et qu'elle pensait qu'il allait la rappeler tout au moins. Et qui se manifestait pas. Donc elle était entre.
Qu'il avait presque oublié.
Voilà, qu'il avait presque oublié. Donc elle savait pas du tout sur quel pied danser.
Et puis au moment où elle désespérait.
Voilà.
C'est au moment vraiment où elle désespérait.
Il se manifeste.
Il se manifeste par hasard. Alors que Reda l'attendait lui aussi. Il espérait. Il l'a invité à une sortie en mer.
Oui.
Pour lui annoncer le. Qu'il veut demander sa main.
Mais ça ne colle pas du tout.
Elle refuse. Elle refuse parce qu'elle a l'espoir.
L'espoir qu'un jour ou l'autre, il refasse surface.
Mardi, il refasse surface. Et bien, on ne va pas tenir comme ça le suspense. Il refait surface.
Oui.
Et cette fois-ci, c'est pour de bon.
C'est pour de bon.
Donc, ils vivent un moment inouï. Ils vivent leur rencontre pleinement.
Absolument, c'est le grand amour.
C'est le grand amour.
Des deux côtés.
Des deux côtés, bien sûr. Et là, rapidement, donc, elle le présente à ses parents.
Le papa
est séduit, la maman n'étant plus, donc.
Voilà, elle convole en juste noces.
Voilà.
Un mois de septembre aussi, le même mois où son père et sa mère se sont mariés.
C'est le même mois, oui.
C'est le même mois.
Oui, mais tout le roman est une ode aux saisons, parce que votre roman est rythmé par le rythme des saisons.
Oui, absolument,
presque à chaque saison, il y a un événement qui survient.
Oui. Et puis,
est-ce que vous l'avez pensé avant ou est-ce que c'est venu
c'est le fait du hasard. C'est ça qui a inspiré
d'abord
le titre de mon livre. Et puis c'est une ode aussi à l'amour.
C'est une ode à l'amour, bien sûr.
Parce que ses parents se sont aimés follement.
Tout le roman est amour.
Voilà. Et
les amours d'automne. Sont les plus doux, c'est de l'amour.
Oui.
C'est de l'amour de la première page jusqu'à la fin.
Oui, mais avec un côté sombre quand même.
Le côté sombre, c'est pas faute à l'absence d'amour. Le côté sombre, c'est le côté de la vie.
Oui.
Le côté sombre de la vie.
Oui.
C'est pas faute à ceux qui s'aiment.
Oui. C'est les épreuves.
C'est les épreuves de la vie. Oui. Voilà, absolument. C'est les épreuves de la vie. Donc, qui dit donc mariage, dit attendre des enfants.
Des enfants adorables.
Et ils ont eu deux enfants adorables. Un et ils ont mené, elle qui est citadine, qui n'a vécu qu'à Alger, elle décide de s'installer. Donc,
s'installer, de troquer son costume de citadine. Pour,
et d'abandonner même son métier.
Même d'abandonner, parce qu'elle est tellement heureuse. Il y avait promis qu'elle pouvait pas travailler, puisqu'il était connu dans la région, mais que plus tard, peut-être, elle ouvrirait son officine. En fin de compte, elle est tellement heureuse dans son nouvel environnement qu'elle troque tout ça pour une vie de famille paisible, tranquille. Où elle peint.
Elle se sent bien. Elle s'est mise à la peinture.
Oui, elle se sent bien.
Il lui a promis de lui acheter un piano, donc.
Elle a ce piano. Elle joue, donc elle est très très heureuse. Elle est comblée dans cette nouvelle vie.
Dans la nouvelle vie, donc tout se passe bien avec Mehdi. Mmh. C'est vraiment.
Oui.
Et le lecteur. On va se dire, bon, les amours d'automne sont les plus doux, et ça va durer ainsi jusqu'à la fin du roman. Sauf qu'un événement intervient.
Douloureux, qui
a touché pas uniquement cette région, mais toute l'Algérie.
Qui a fait basculer
des vies entières. Et
voilà.
Celle du couple Mehdi et Mélissa, c'est le fameux 10 octobre 1980. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dans votre roman, bien sûr, il y a le tremblement de terre.
Oui, oui.
C'est connu.
Oui.
Mais dans votre roman, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a été la catastrophe pour elle. Elle a attendu, elle l'a espéré.
Il faut rappeler qu'il est parti en mission.
Oui, à l'SNAM pour vendre son bétail.
C'est ça.
L'époque, l'SNAM, comme maintenant, d'ailleurs, c'est une plaque tournante
du marché
de bétail, de légumes, tout ce qu'on veut. Donc, il était parti tout le long de la route. Il lui avait téléphoné en lui disant « ça va, tout va bien ». Et dès que je rentre...
Il l'a rassuré, voilà. C'était avant l'événement.
Ça, c'est avant l'événement.
Bien sûr.
L'événement arrive, sa vie bascule. Elle ne sait plus où elle en est. Elle est perdue. Elle a 39 ans. Elle a deux enfants à charge.
Sans ressources.
Non, ils ont le beau-père, c'est quelqu'un de nantis, il a des terres, il a du bétail.
Ouais.
Il a...
Donc ce n'est pas ça qui lui fait quitter.
Non. Elle dépérissait, elle mangeait plus, elle ne dormait plus. Et pour y aller de sa santé mentale et physique. Il fallait qu'elle puisse élever ses enfants. En toute quiétude. Or là, son état de santé est décliné au fur et à mesure que les jours se passaient. Donc, il fut un temps, le moment était arrivé de partir. Il fallait qu'elle parte, qu'elle change de vie, qu'elle change de décor pour essayer d'apaiser sa douleur.
Et presque au même moment, la santé de son père commençait aussi à décliner
un
peu.
Son père était malade, donc... Elle s'est dit, bon, de rouvrir, repartir en ville, réouvrir son officine et rentrer dans le tourbillon de ses responsabilités. Peut-être que ça l'aiderait à oublier un peu. Et d'autre part, il y avait le papa qui commençait.
Qui l'a aidé aussi.
Oui.
C'est le papa qui l'a aidé.
Il lui a dit, rentre, je te trouverai un appartement. Et je te logerai, pas de souci avec tes enfants.
Ça l'a beaucoup aidé. Et ça l'a rapproché une deuxième fois de son père.
Absolument.
Et la maladie qui l'a rapproché de son père une deuxième fois, et le fait, bien sûr, qu'il est dans ces moments difficiles, elle n'a trouvé que... Le père est
Lila.
Et Lila,
la seconde
épouse de son père.
Et puis leur vie à cette époque-là était similaire. Tous les deux avaient des bleus dans le cœur. Lui venait de perdre la femme qu'il avait aimée follement, et elle venait de perdre l'homme qu'elle avait aimé follement. Donc leur vie était à peu près similaire, superposable, disons.
Oui, c'est vraiment une vie similaire.
Ouais.
Ce sont des amours que vous racontez, et c'est haut et c'est bas. Et dans les moments les plus bas de Mélissa, il y a Reda qui réapparaît. comme par miracle, il réapparaît.
Il réapparaît. Et bon, en la voyant, les anciens souvenirs refont surface. Ce qu'il éprouvait pour elle aussi, alors qu'elle s'en voulait de l'avoir renvoyée, de l'avoir déçue à l'époque, de lui avoir fait du mal. Il fait une tentative de récupération.
Mais il l'aide à faire sa comptabilité.
Voilà, il est proche d'elle. De temps en temps, ils vont souper ensemble. Lui aussi a divorcé. Il a
des enfants.
Il a 3 enfants.
Mais c'est impossible.
Mais c'est impossible, c'est impossible. Son cœur est entièrement pour Mahdi. Elle dit que les 10 ans qu'elle a passés avec lui sont suffisants pour lui.
Pour l'éternité.
Pour l'éternité.
Oui, mais la vie aussi a ses surprises. La vie a ses surprises. Si Reda et Melissa n'ont pas, le destin n'a pas voulu les lier, ce sont par contre leurs enfants qui vont se lier d'amour et qui vont finir par se marier.
Voilà. Donc,
la vie les a liés, mais à travers leurs enfants.
Voilà, oui. 40 ans après.
C'est donc Les amours d'un automne sont les plus doux. C'est un roman d'espoir.
Oui, un roman. Okay. Oui. Même s'il y a eu
À chaque moment de tragique, on va dire, vous trouvez compassion, vous trouvez un autre moment qui fait oublier ce drame.
Oui, peut-être, oui. Peut-être.
Peut-être, c'est ce que vous écrivez.
Mais
je rappelle que, par exemple, le décès de la maman de l'héroïne Mélissa, donc le père a trouvé Lila.
Oui, il a trouvé Lila, parallèlement, oui.
Oui, parallèlement, elle a trouvé Lila. Donc, quand Mélissa perd Mehdi, elle a trouvé, un bon moment, elle a trouvé Reda.
Elle a trouvé Reda, mais sans plus, quoi.
C'était une épaule.
Sur laquelle elle pouvait s'appuyer.
Quand elle a perdu Mehdi, elle a trouvé son père. Elle a retrouvé une deuxième fois son père.
Oui,
il y a toujours donc cette lumière qui rejaillit, cet espoir qui...
Voilà. Avec une fin qui est quand même...
On la laisse pour le lecteur qui veut le découvrir, la fin. C'est avec le lecteur la découvrir. Et les projets, vous en avez?
Oh, j'en ai plein.
Alors, on va commencer par le quatrième, le projet dont vous nous avez parlé hors antenne de ce livre sur...
Sur une étude qui a été faite sur 3 mendiants à Alger que j'ai suivis, avec qui j'ai sympathisé. Et qui m'ont raconté leurs histoires, des histoires aussi absolument incroyables que j'ai rapportées dans ce livre, un livre très intéressant aussi, où il y a de l'amour, mais de l'amour pas tel qu'on le conçoit, de l'amour entre
du partage
entre humains, entre hommes.
Ouais.
Donc c'est une autre perspective, une autre approche du roman.
Ce qui est intéressant dans vos romans, dans votre œuvre qui est en train de se construire, c'est que vous nous rapprochez de la vie. Vous nous dites que même ces anonymes, même ces êtres ont une histoire à raconter, ont de belles histoires à raconter.
Absolument.
Et vous nous racontez leur courage, leur vie, leur résilience, leur...
Oui, leur
comment
peine.
Ils se reconstruisent malgré les drames qui les...
Leur précarité, leur peine, mais il y a des espoirs toujours.
Il y a toujours de l'espoir. Par exemple, en parlant de ces mendiants, ils ne sont pas nés mendiants.
Ils ne sont pas nés mendiants.
La vie a fait qu'ils se retrouvent dans la nécessité. La vie on a hâte de lire ce...
Il faudra dire à l'éditeur de bousculer.
Alors, l'éditeur, ces fameux éditeurs, vous en pensez quoi, d'une façon générale? C'est difficile aujourd'hui d'éditer un livre?
C'est difficile, pas pour moi, parce que c'est pas mon métier, mais pour les, pour ceux qui nous secondent, qui prennent nos livres en main. On parle de difficultés, de la, le papier qui se fait rare et qui est cher.
C'est-à-dire les coûts de production sont devenus
excessifs.
Excessifs.
Le papier, entre autres, qui est dans le prix, a grimpé à une un taux vertigineux. Les imprimeurs qui réclament des sommes folles aussi.
Ouais.
Donc tout ça, ça nous retombe dessus et ça nous freine dans notre enthousiasme.
Ça fait que les éditeurs ne prennent pas beaucoup.
Voilà, absolument.
Et ils n'éditent pas beaucoup, ils éditent moins.
Et ça nous freine.
Ça freine, bien sûr, ceux qui ont la plume un peu.
Voilà.
Et l'imagination.
Voilà.
Comme vous.
Un peu.
Parce que vous avez trois livres.
Trois livres, je vous dis, j'en ai quatre.
En souffrance, trois livres en souffrance.
Voilà.
Trois livres qui attendent, bien sûr, leurs lecteurs. Mais il faudrait aussi, il faut dire quelque chose, il faudrait que les gens se manifestent un peu devant les librairies, qui montrent leur acte d'amour envers ce livre et envers les auteurs que vous êtes.
Mais donc, les téléphones portables ont pris le relais. Maintenant, on préfère lire des bêtises sur le téléphone portable et non pas...
C'est ça, ça nous le cesserons
c'est l'évolution.
Jamais de le dénoncer. Bon, c'est quand même regrettable.
Oui.
Il faut parer, il faut essayer de remédier, il faut essayer de replonger les gens dans l'amour de la lecture.
Alors qu'un livre, c'est magnifique de tourner les pages, de sentir l'odeur du papier, de sentir la poussière.
Très bien. Allez, on termine avec notre questionnaire ludique. Mer ou montagne?
Mer.
Le plat préféré?
Le couscous. Indétrônable.
L'indétrônable couscous, le fruit.
L'orange.
L'indétrônable orange. Vos auteurs préférés?
Je lis tout. Sur ma table, j'ai une pile de livres que je décortique. Je lis tout.
Oui.
Là, je viens d'acheter du Chetam. C'est pas un peu, pour découvrir un peu l'univers, son univers.
Très bien. Hein,
voilà.
La chanson que vous pouvez écouter en boucle?
Kultum. Amri.
Amri,
oui. Oui.
C'est beau. Le chanteur préféré?
Je suis très old school. J'en suis resté au crooner.
Aux anciennes.
Au crooner.
Disons le proverbe que vous aimez.
La vie est...
Badjda djilforja.
Oui. En arabe, oui. Ça pourrait être ça, oui.
Ça pourrait être ça, oui. Le mot que vous aimez?
Authentique.
Celui que vous détestez?
Perversité.
Vos trois passions?
L'écriture, la natation, les randonnées.
Les randonnées. Salil Badja, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir offert donc à nos lecteurs votre troisième ouvrage. On attend de vous le quatrième. Et pour vous inviter une quatrième fois.
Inch'Allah.
Amis auditeurs, je vous dis donc au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end. Au revoir. Merci et bon week-end.
حلوه والشوق والمحبه من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب Thank you.